RMC. La et l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Et on parle de tout aujourd'hui, de vos addictions, de vos fantasmes, avec Jean-Claude Matizia qui est avec nous, auteur de Fantasmes et réalités sur les sexes addicts aux éditions Jean-Claude Lattès. Et ensuite, notre chanteur du jour, ce sera Côme, que vous pourrez admirer prochainement à la rentrée de septembre dans Le Rouge et le Noir, puisqu'il il sera donc l'acteur-chanteur de cet opéra rock. Et puis, bien sûr, nous aurons notre J'ai testé pour vous, et ce sera Mélusine qui a reçu ce cahier de vacances de Clara Morgan. Comme chaque été, Clara Morgan sort un petit cahier pour couple, pour essayer de perfectionner votre culture érotique. Nous continuons avec Ludovic. Bonjour Ludovic.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Jean-Claude.
Oui, bonjour.
Oui, écoutez,
alors
moi,
vous êtes addict au sexe, ça y est.
Exactement.
On l'a trouvé, notre addict.
Ouf.
Je souffre d'hypersexualité. Alors je sais que je suis relativement jeune, j'ai 22 ans, et je sais pas comment j'explique ça, je sais que... Bon, j'ai 15 ans de rugby aussi dans les pattes, donc c'était assez simple. Pendant l'adolescence, à 16-17 ans, il y avait les fameuses troisièmes mi-temps. C'était assez simple de conclure avec des filles qui avaient des étoiles dans les yeux. C'est les premières soirées, on sort entre copains et mm-hmm. du coup, c'est assez facile de conclure. Et puis après, là, je fais aussi qu'avec les hormones et la pornographie. Donc, c'est aussi facile d'assouvir ses désirs. Et moi, je me rends compte aujourd'hui, quand je vois mon entourage qui se cale qui se case en couple plus facilement que moi, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, même la pornographie me satisfait plus et il me faut absolument de nouvelles conquêtes. Au début, j'assouvissais ça, je me disais, bon, c'est l'âge, c'est les sex friends, ce qu'on appelle les sex friends. Et aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, j'ai besoin d'une femme différente chaque jour ou tous les deux jours grand maximum.
Et vous avez l'air de commencer à en souffrir, visiblement.
Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je vous le disais, moi, c'est mes proches, mes amis, on les voit, ils partent en week-end, parfois je pars avec eux, et voilà, il y en a qui commencent à être en couple, c'est l'âge aussi, qui commencent à être en couple depuis un an, depuis deux ans peut-être pour certains. Et c'est vrai que, bon, bah, c'est sympa quand on est adolescent, c'est sympa jusqu'à 20, 21 ans d'être le gars qu'enchaîne facilement les nanas. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit, même quand on voit que la pornographie n'assouvit plus autant qu'avant les désirs et qu'il faut une fille différente chaque jour et que même des filles avec qui on a des bonnes affinités ne nous satisfait plus parce qu'il y a déjà eu le rapport et qu'on a déjà tiré ce qu'on voulait tirer de cette fille-là, évidemment, c'est vrai que ça commence à peser.
Mmh. Oui, alors là, à partir du moment où ça devient envahissant, effectivement, il y a une souffrance. C'est un questionnement qui est très important. Vous avez l'air de mélanger un petit peu les deux. C'est mélanger les deux pratiques, je veux dire. C'est pas, vous mélangez pas dans votre esprit, mais mélanger les deux pratiques. C'est bien souvent, soit les gens consultent parce qu'ils sont accros au site pornographique et d'autres sont accros, aux relations réelles et ont besoin de la multiplication. Vous, c'est un petit peu les deux. Vous êtes à cheval un petit peu entre les deux et rien n'est satisfaisant. La vraie question qui se pose, c'est ce besoin d'identification aux autres. Quand vous dites, voilà, je vois les autres qui sont en couple, etc. La première chose, c'est est-ce que ça serait vraiment votre désir d'être en couple? C'est pas parce que les autres le sont, vous pouvez les envier, mais c'est pas pour ça que ça correspond à une envie profonde. Et bien souvent, il faut voir une addiction. Je serais un peu modéré sur le terme d'addiction pour vous, mais en tout cas, une addiction est souvent une réaction de fuite. C'est-à-dire que c'est un peu une voie de garage, une voie de dégagement, et on pourrait aussi entendre dans ce que vous dites la peur d'engager une vraie relation. Moi, j'avais vu un acteur comme ça, X, qui était très satisfait de sa vie. J'en parle dans mon bouquin, il multipliait les relations. Le soir, il allait dans des clubs échangistes, il ressentait le besoin de se masturber plusieurs fois par jour, et il disait qu'il était très heureux. Mais il disait, je viens de rencontrer une personne, et j'ai du mal à engager la relation, et ça me fait souffrir. Donc, il y avait un basculement comme ça, et on peut imaginer aussi que vos conduites soient quelque part peut-être aussi le signe d'une crainte d'engager une vraie relation. C'est cette dimension un petit peu d'évitement pour l'instant. Je ne dis pas que ça continuera. Mais en tout cas pour l'instant, ce désir de vous identifier aux autres couples peut aussi signer effectivement ce désir profond, mais aussi la multiplication des relations. C'est la meilleure façon de ne pas en avoir une seule.
Ouais. Mais c'est vrai qu'après, le problème, c'est que tout devient un fantasme très rapidement. Dès qu'on croise une fille dans la rue qu'on connaît pas, habillée d'une façon ou d'une autre, ou une fille dans une soirée,
Ludovic, tout devient un fantasme. Vous avez 22 ans. Bon, à 22 ans, avoir envie encore de découvrir toutes les femmes du monde, c'est pas quelque chose de très alarmant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez attendre encore largement 10 ans avant de vous casser.
Oui, bien sûr, mais ça devient triste. Ça devient triste au moment où voilà, parfois c'est la seule motivation pour sortir de chez soi, des jours où on n'a pas.
Non, mais c'est ça. C'est exactement ce qu'il faut que vous entendiez. C'est qu'au fond, c'est une fuite ou une course en avant, vous appelez ça comme vous voulez, qui pour l'instant, pendant pas mal de temps, vous a rendu heureux, mais qui aujourd'hui, vous avez ça vous paraît.
Ça s'est vidé de son sens.
Voilà.
Ça s'est vidé de son sens, ça n'est plus satisfaisant.
C'est pour ça qu'il faut. Vous avez arrêté le rugby?
Non, je continue toujours.
Bon, et ça vous continue à vous passionner?
Oui, toujours, oui.
Bon. Eh ben, il faut arriver à comprendre, qu'est-ce qui vous passionnerait dans la gente féminine, au fond. Quel genre de femme vous auriez envie de rencontrer pour avoir enfin la possibilité de ne plus chercher tout le temps d'autres, parce que finalement vous cherchez d'autres corps mais vous ne les rencontrez pas, ces femmes.
Non, mais c'est l'éternel on cherche éternellement toujours plus. C'est ce que je vous disais, c'est que tout devient un fantasme.
Ludovic, ce que je veux vous expliquer, c'est que vous restez sur le corps et sur le sexe, mais vous ne les connaissez pas, ces femmes. Vous ne vous intéressez pas aux émotions. Par exemple, vous n'êtes pas capable de dire je t'aime à une femme.
Non, pas aujourd'hui en tout cas.
Bon, donc voyez bien que cette dimension qui fait qu'on va avoir envie de s'engager avec une femme ou un homme, c'est la dimension émotionnelle. Et cette dimension émotionnelle, elle vous est totalement étrangère.
Et pour l'instant, moi, je ressens dans ce que vous dites que vous êtes plus dans la quête du plaisir que dans le, parce que vous avez évoqué le mot désir tout à l'heure, et vous êtes plus dans la quête du plaisir que du réel désir en fait. Et c'est plus quelque chose d'immédiat, bon, qui est facilité. On voit bien actuellement, voilà, sur Internet, les sites de rencontres, les sites pornographiques, etc. Il y a une accessibilité quand même très facile qui évince le désir. Maintenant, c'est le plaisir tout de suite. Il faut posséder, avoir, comme on achète un iPhone, et ben on a un rapport sexuel. Etc. Donc c'est plus votre accès au désir maintenant. Et ce que disait Brigitte, qui est tout à fait juste, c'est-à-dire de voir. Parce que vous avez forcément rencontré quelqu'un, si vous avez multiplié les partenaires à un moment ou à un autre, qui aurait pu correspondre. Cependant, vous en êtes même pas laissé le temps. C'est-à-dire que par cet accrochage au plaisir, vous n'êtes pas laissé le temps du désir.
Alors, je vais revenir sur ce que vous disiez au début de votre témoignage, Ludovic, parce que c'est jamais anodin ce qu'on dit au début d'un témoignage. Quand vous voyez un de vos amis proches qui justement est amoureux et par exemple, vous les voyez se tenir la main, éventuellement s'embrasser devant vous, essayez la prochaine fois d'être un petit peu plus avec votre ressenti. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Quelle émotion ça provoque? Et c'est ça qui va vous permettre de comprendre vos émotions et vos non-émotions dans cette recherche de corps différents sans arrêt. Voyez ce que je veux dire?
Généralement, ce que je vois, c'est que eux, ils arrivent à fonder quelque chose et moi, j'en suis incapable. Et d'un côté, ça m'attriste. Et d'un autre, j'ai, je sais pas si je peux appeler ça une pulsion, mais en tout cas, j'ai cette envie et qui est là. De toujours aller chercher plus loin et
bien sûr, mais vous ne me parlez pas de votre ressenti et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à trouver. Quand vous saurez ce que vous ressentez quand vous voyez deux amoureux qui sont dans quelque chose de très fort, parce que quoi qu'on en dise, le sexe c'est chouette mais l'amour c'est quand même pas mal non plus. Quand vous saurez analyser ce que vous ressentez, quand vous ressentirez quelque chose, vous aurez le début de la réponse. Merci Ludovic en tout cas. Et puis Fabien également nous parle d'addiction. Bonjour Fabien.
Bonjour Brigitte.
Vous ne serez pas au chômage en tant que spécialiste des addictions.
Non, ça va. Je comptais partir à la retraite, mais non.
Bonjour Fabien.
Bonjour Brigitte.
Allez-y, je vous en prie.
Alors moi, mon addiction est nettement moins liée au sexe ou à la relation amoureuse. Elle est surtout liée au téléphone.
Mais c'est très phallique un téléphone, Fabien.
Ça peut, effectivement. Ben, ça le devient, en fait, dans le jeu aussi, dans ce qu'on pourrait appeler les sextos. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même plus... c'est plus lié à mon travail et à mon activité professionnelle. Et ça en devient quelque chose de réflexe. C'est-à-dire que je suis même capable, dans l'avion, je voyage beaucoup, alors que le téléphone est éteint, évidemment, d'être capable de regarder si j'ai pas reçu un message alors que je suis à 8000 mètres d'altitude. Donc c'est vrai que ça peut devenir un vrai souci dans ma relation familiale ou amoureuse.
Eh oui.
C'est vrai qu'il n'y a rien de plus irritant que d'être avec quelqu'un qui a son téléphone en permanence. Voilà. Maintenant, on pensait que c'était quelque chose de générationnel. Manifestement, c'est pas le cas. Vous avez 46 ans. Donc, on voit bien la place qu'a pris pour nous tous, en tout cas, ces smartphones, ces réseaux sociaux, les mails, etc. Comme si on se sentait maintenant obligé de répondre dans l'instant. Il faut absolument...
Vous me pardonnez une question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est plus brillant professionnellement, amoureusement, ou... je dis brillant au sens de la qualité, hein, mmh. C'est exactement de la performance, parce qu'on est capable de surréagir. Moi, j'en fais partie, hein, je suis le mec le plus réactif de la Terre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur un WhatsApp que l'on a dans ma société. Est-ce que c'est lié aujourd'hui à la performance ou mais par rapport aux années 80 où on n'avait pas, où il y avait le fax et encore c'était...
Amoureusement, j'y crois pas une seconde. Je ne crois pas que ça a pris une place exagérée, c'est-à-dire que voilà, ça a tendance à banaliser un peu les relations.
Et puis ça laisse plus de place au désir.
Voilà, de communiquer dans l'instant.
Moi, je suis pas forcément d'accord, parce que des gens font l'amour par téléphone.
Non, mais je parle du désir, je parle pas du plaisir ou de l'excitation, Fabien.
Le désir avant le plaisir, il y a le désir.
Mais Fabien, faudrait-il encore une fois que les gens comprennent de quoi on parle quand on parle du désir? Le désir se nourrit du manque. On va avoir le désir de recevoir un texto on l'a attendu pendant 3 heures, mais si on a envoyé 5 textos et que dans la seconde qui suit on a eu les réponses, ben notre désir d'avoir la réponse, il est complètement diminué. Alors qu'un texto qui arrive au bout de 3 heures, je peux vous dire que qu'est-ce qu'on l'a désiré et qu'est-ce qu'on l'apprécie.
Voilà, après, chacun, je sais pas, si pour vous c'est important, effectivement, pour votre, pour vos fantasmes, pour votre désir de répondre dans l'instant, très bien. C'est pour ça que je faisais une nuance un petit peu dans le côté amoureux des choses et puis le côté professionnel. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau professionnel, c'est complètement différent. Il y a des situations professionnelles où vous pouvez pas y échapper, c'est-à-dire qu'il faut effectivement être réactif. Voilà ce qui semble être votre cas. Cependant, moi, ce que j'ai quand même entendu, c'est que ça a l'air de vous poser des problèmes quand même.
Oui, ça pose des problèmes dans une relation de couple, une relation familiale, c'est évident. Comme vous l'avez noté tout à l'heure, je pense que c'est archi irritant, voire gonflant, et j'en suis conscient d'ailleurs, hein, de toujours mettre la main à la poche pour aller voir si on a reçu un message ou de répondre à des choses qui sont futiles.
Fabien, c'est tout simplement le problème du stimuli. On est très réactif aux stimuli, et notre smartphone, quand on entend le bruit du texto qui arrive, on est stimulé, et donc après c'est notre capacité à résister à un stimuli, à résister à une frustration qui va faire qu'on va pouvoir ne pas y répondre immédiatement ou au contraire être faible et y répondre immédiatement. C'est ce travail-là qu'il faut que vous fassiez. Est-ce que vous allez apprendre à être un petit peu moins dépendant de ces stimuli qui arrivent
Comme peut-être la cigarette, mais je suis absolument d'accord avec vous. Hein. Je suis absolument d'accord avec vous.
Mais oui. Donc c'est ce travail sur soi qu'il faut faire, hein, si ça vous pose problème, si ça vous pose pas de problème,
non,
après tout.
Non, ça me pose pas non plus de gros problèmes, mais je pense que ça pose des problèmes, en tout cas avec les gens qui gravitent autour de moi, c'est certain.
Donc si vous tenez aux gens qui gravitent autour de vous, il faut apprendre, il faut faire la part des choses et faire le choix de résister aux stimuli.
Si vous y arrivez pas maintenant...
On se fait aider.
On se fait aider, et puis d'autre part maintenant il y a des stages qui sont mis en place où on décroche pendant 4-5 jours sans son smartphone... voilà. On va à la campagne, on laisse les smartphones et on va passer 4-5 jours avec sa compagne ou seul. Et on essaye de voir comment on réagit. Et souvent, c'est extrêmement compliqué et difficile de pouvoir s'en passer.
Oui, mais je pense, et ça c'est peut-être le message positif que vous donnez à Fabien et à tous ceux qui nous écoutent, quand on arrive à résister à un stimuli, on se sent, sur le plan de l'estime de soi, on se sent renforcé. Et puis après, on va résister à deux, à trois, à quatre. Et finalement, on va en tirer des avantages. C'est le premier qui est difficile, au fond.
Voilà, c'est un peu l'exemple du tabac, par exemple, c'était très intéressant. C'est exactement la même chose. C'est plus on essaye de maîtriser, plus on s'éloigne de la période entre guillemets d'intoxication, plus c'est facile. Donc, comme tous ces objets, ces nouvelles technologies, c'est juste une histoire de maîtrise. C'est-à-dire qu'il faut se servir du positif et pas se laisser envahir et puis pas être surstimulé en permanence par ces nouvelles technologies.
Merci beaucoup Fabien. Ne résister à la tentation, le conseil du jour. Bon, en principe, un couple c'est basé sur la confiance. Donc si vous avez vraiment l'impression que votre couple, vous avez beaucoup de confiance l'un dans l'autre, eh bien osez avouer votre pulsion d'infidélité et demandez de l'aide à votre partenaire. Demandez-lui en quelque sorte d'être votre petit gendarme. Parce que de toute façon, on le sait, hein, l'infidélité c'est une menace pour le couple. Donc il faut pas hésiter à se servir justement de la confiance qu'on a. Alors évidemment, c'est pas, attention, hein, c'est un conseil à prendre avec des pincettes, parce que pour certains, faut surtout pas le suivre, ce conseil-là. Mais parfois, le fait de pouvoir en parler ensemble et de compter sur le partenaire pour nous aider à résister, ça peut fonctionner.
C'est toujours la meilleure voie.
Ça peut, en tout cas. Et puis, notre testeuse du jour, ce fameux cahier de vacances Clara Morgan, qui sort chaque année, c'est Mélusine qui l'a testé. Bonjour Mélusine.
Bonjour Brigitte.
Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, je précise, hein, que ce sont des questions de tout ordre. Hein. D'ailleurs, on passe son bac érotique, en fait. Hein. On doit répondre à des questions de français, de langue. Enfin, de langue, ça peut être mal interprété. De mathématiques, enfin voilà. Hein.
Oui, c'est exactement ça. Je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts dans ce cahier de vacances. Et j'ai retrouvé exactement ce que j'attendais d'un cahier traditionnel, avec des questions un petit peu plus pimentées que la moyenne. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez ludique et d'amusant, qui change des cahiers de vacances classiques qu'on trouve un peu partout l'été. Et je pense que c'est un bon moyen de pimenter ses vacances.
C'est assez drôle, hein.
Oui.
Bon. Et puis il faut juste pas être jalouse, parce que alors, les photos de Calard à Morgan.
Ah bah alors là, oui, c'est sûr.
Vous êtes d'accord, hein. Il vaut mieux éviter de si on est jalouse de donner ça à notre partenaire.
Ouais, là encore magnifique.
Oui. Qu'est-ce que vous avez préféré
Eh ben moi, je trouve que les questions de géographie m'ont vraiment beaucoup fait rire. J'ai pris quelques exemples, si vous voulez, par exemple.
Oui.
À Hong Kong, une femme trahie a le droit de tuer son mari infidèle, mais seulement à main nue. Alors ça, je ne savais pas.
Tuer un homme à main nue, ça ne doit pas être facile quand même.
Oui, bah, je suis assez d'accord avec vous. Et il y a plein de petites anecdotes comme ça qui sont assez marrantes. Et ouais, voilà, mention spéciale pour la géographie quand même.
Mmh. Bah, remarquez, votre exemple, il est révélateur de... Moi, si je suis votre partenaire, je reste fidèle. Hein.
C'est assez extrême quand même, oui.
Oui, non, je
plaisante, évidemment. Et quelle note vous lui donnez alors à ce cahier de vacances?
Eh ben, moi je lui donnerais 10, parce que honnêtement j'ai trouvé tout ce que j'y attendais, et j'ai même été surprise parce qu'à la fin il y a des petits jeux à faire soit avec votre amoureux, ou il y a aussi des petites questions à poser avec vos amis pour une soirée entre amis. Je trouve ça parfait. Donc vraiment, moi je lui mettrais 10, j'ai rien à redire et c'est un bon moment.
Voilà, et puis c'est vraiment fait pour couple. On peut répondre ensemble aux questions, on peut s'en amuser, on peut être celui qui questionne, celui qui répond, enfin voilà.
Et s'inspirer.
Exactement. Merci beaucoup Mélusine. Ce cahier de vacances Clara Morgan, c'est aux éditions Blanche, bien sûr. Et merci à vous Jean-Claude Matisiak. Je rappelle le titre de votre livre, Fantasmes et réalités sur les sexes addicts. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Dans un instant, c'est Côme qui sera avec nous.
RMC, 14h-16h, La Haye, l'amour et vous. RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye et Côme.
Et oui, c'est Côme qui est avec nous. Vous êtes chanteur, vous êtes le finaliste de The Voice saison 4. Et surtout, on parle beaucoup de vous en ce moment parce que vous allez être Julien Sorel dans cet opéra rock Le Rouge et le Noir au Palace à Paris dès le 29 septembre.
C'est Côme. Ça, ouais.
Et vous êtes tout en noir, mais il n'y a pas une note de rouge?
Non, pas du tout, mais ma couleur, ouais, c'est le noir.
C'est vrai toujours que, le noir? Pourquoi?
Pas toujours, mais souvent, ouais. Je sais pas, c'est comme ça, j'aime bien.
C'est peut-être parce que
la sobriété.
Vous n'acceptez pas encore assez cette gloire qui tombe sur vous, donc vous voulez rester tout en noir.
Je sais pas si on peut appeler ça une gloire, mais.
Bah quand même, vous êtes un peu sorti de l'ombre là.
Ouais, c'est que ça, bah c'est cool, c'est très très cool. Bah c'est surtout une chance, je pense déjà, de pouvoir avoir un rôle comme ça dans cet opéra rock, de pouvoir avoir la chance de bosser avec des personnes qui ont autant de talent. Et donc voilà, je suis ravi.
Et vous avez un petit peu le trac ou pas encore?
Pas encore. Je reste simplement concentré déjà sur ce que j'ai à faire. On va rentrer petit à petit dans les répétitions, surtout pour tout ce qui est théâtre, en tout cas pour ma part. Le reste des compos sont toujours en train de se faire. Voilà, donc j'ai enregistré quelques titres, mais pas voilà, tout se dessine petit à petit. Donc on verra. On verra.
Alors on s'est rencontrés un petit peu avant l'émission. Il me semble que pour l'instant, 21 ans, déjà beaucoup de choses qui arrivent. Vous restez assez simple. Vous avez pas encore la grosse tête.
Mais je.
Non mais c'est bien.
Ce truc-là en fait de grosse tête, je sais pas si. Enfin, moi j'ai un avis là-dessus.
C'est pour ça que vous gardez un chapeau peut-être. Hein.
Non, pas du tout, c'est juste que j'ai beaucoup de cheveux et que c'est vrai que parfois c'est un peu embêtant, mais j'aime bien, enfin bref. Non, je sais pas, la grosse tête,
vous savez ce qu'on dit des cheveux, hein, c'est un symbole quand même de force. Hein.
Ah ouais?
Non?
Bah, je sais pas. Moi, c'est juste, c'est mon truc, j'ai toujours eu les cheveux longs et.
C'est votre ces cheveux?
Pas du tout. Ah non, pas du tout, au contraire. Ah non, j'aime beaucoup mes cheveux, en fait, j'ai juste jamais eu les cheveux courts. Mm-hmm. Donc, et puis je sais pas, j'aime bien avoir des cheveux. Enfin, c'est con ce que je dis, mais voilà, quoi.
Mais non, mais c'est pas con.
C'est moi et après, pour ce qui est de la grosse tête, je sais pas, j'ai un avis un peu là-dessus, je pense que c'est des gens qui. Enfin, les gens qui ont eu beaucoup la grosse tête, c'est des gens qui avaient pas beaucoup de choses, en tout cas à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est des gens qui c'était des produits à la base et qui se sont fait, enfin, qui ont explosé grâce à d'autres personnes et qui, enfin, je sais pas, c'est un peu.
Oui, mais en même temps, une émission comme The Voice, c'est une émission qui est très très populaire, qui est regardée par énormément de gens. Donc, je suppose que ça chamboule quand même complètement la vie du jour au lendemain.
Ouais, et en même temps, moi, c'est pas ce côté-là qui m'a. The Voice, c'était un peu particulier pour moi parce que déjà à la base, enfin, je regarde pas la télé, j'écoute pas forcément la radio. Et ils m'ont trouvé bourré dans un studio, donc c'est un peu. Puis je regardais pas la télé, et puis simplement j'étais.
Non, mais les autres la regardent et vous ont vu.
Ouais, m'ont vu. Et en fait, il y a juste un truc aussi dans The Voice, c'est à la base, je suis pas forcément interprète. J'ai toujours fait que composer. J'ai eu beaucoup de groupes et c'était génial de pouvoir s'exposer comme ça. Mais je vois pas aussi tout le temps où est la légitimité d'avoir autant de succès en faisant des reprises. Ça peut être touchant en fait de reprendre des titres d'autres personnes, mais c'est vrai que
oui, mais en même temps c'est votre capacité vocale, c'est votre talent de chanteur qui fait que vous avez été finaliste. C'est pas les chansons que vous avez chantées.
Sûrement. Je sais pas. Après, je suis pas très comment dire.
Vous avez envie de garder de la distance.
Hein. C'est pas garder de la distance, ça se fait juste naturellement en fait. Il y a des choses, je sais pas. Quand on me parle de grossesse, c'est quelque chose que je comprends pas trop parce que je pense pas l'avoir. Après.
Non, je vous confirme, oui.
Mais voilà.
Vous avez pas l'impression que ça peut venir?
Non, pas du tout.
Je vous propose qu'on écoute un extrait de ce opéra rock, Le Rouge et le Noir.
Je veux la gloire à mes genoux. Je veux le monde ou rien du tout. Pas les meuniers plaisirs, pas les petits désirs, les privilèges. Je veux les plaies de l'amour fou. Je veux la corde à votre cou. Pas les menus plaisirs, pas les petits sourires.
La gloire à mes genoux, c'est le titre de l'extrait qu'on vient d'entendre. Vous connaissiez Le Rouge et le Noir de Stendhal?
Ouais, quand j'étais plus jeune, bah forcément parce que tout le monde le bosse au collège, lycée, voilà. Donc c'est Stendhal.
Vous étiez un bon élève?
Non, pas du tout.
Donc vous auriez
pas du tout. Ça,
bah, pas lire.
J'étais pas forcément mauvais, c'est juste que disons que j'ai jamais rien foutu en cours, quoi. Clairement, c'est pas un endroit où je me sentais bien. Et puis j'ai passé pas mal de temps en Henri IV aussi, qui est un grand lycée, malgré le fait que j'étais au collège, et c'est un truc où on demandait beaucoup d'investissement. Et c'est vrai que l'école, c'est un peu un endroit où je me suis perdu et j'ai, enfin, je sais pas, c'était pas, je me sentais pas très à l'aise là-bas, j'avais pas forcément beaucoup de potes. Je sais pas, c'était pas la meilleure période de ma vie, quoi. Voilà.
Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'amis ou vous restez assez solitaire?
Je suis pas solitaire parce que je n'aime pas forcément être seul. J'ai toujours besoin de compagnie, être avec mes potes, mais ça reste un cercle assez fermé parce que bah, j'ai beaucoup à donner, mais surtout à ceux qui le méritent. Donc même mes amis et vraiment mes amis, la famille et les personnes qui en valent la peine, quoi. Voilà.
Et alors les femmes, j'ai lu, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, que pour l'instant c'était votre guitare. C'est toujours
ouais,
le cas.
C'est toujours le cas.
Et vous ne grattez que la guitare.
C'est-à-dire, je ne gratte pas que la guitare, mais c'est juste que c'est la plus fidèle, comment dire. Enfin, on n'a jamais été, je me suis jamais fait tromper. En tout cas, je ne le sais pas, mais
on ne le sait pas toujours.
On ne sait pas toujours. Non, ça, bah, tant mieux en même temps.
Oui,
vaut mieux
tout,
peut-être pas tout savoir.
Autant ne pas savoir ce qui peut faire du mal. Hein.
Ouais, c'est clair. C'est pas très drôle.
Est-ce que si vous avez trompé, vous l'avez dit?
Non. Ça m'est beaucoup arrivé quand j'étais très jeune et je me suis juste rendu compte que j'étais un gros con et que c'était pas forcément bien parce que j'ai fait. Il y a une fille qui a pas mal souffert à cause de moi et en fait j'étais juste trop jeune pour m'en rendre compte et du coup à partir du moment voilà j'ai réalisé que j'étais juste un con et que si on aime quelqu'un
ça s'appelle de l'expérience aussi non
ouais mais c'était un peu bizarre quand même enfin c'est une fille à qui j'ai fait vraiment beaucoup de mal que évidemment j'ai trompé.
Alors vous dites j'étais trop jeune vous avez 21 ans aujourd'hui donc je suis obligé de vous demander vous avez commencé votre sexualité à quel âge?
Assez jeune. Pas super jeune non plus, 15 ans. Après,
15 ans, ouais. Oui. C'est plutôt en dessous de la moyenne. La moyenne, elle est à 17 ans aujourd'hui.
Ah bon? Oui. Je pensais pas.
Alors, on va voir justement si vous avez un peu d'expérience, Koum, parce que dans cette émission, on conseille ceux qui nous appellent et qui justement savent pas très bien quelle décision prendre sur le plan amoureux.
Ouais.
Et donc là, je vais sortir du studio, enfin du moins symboliquement, hein, et c'est vous qui allez conseiller l'auditeur.
C'est énorme.
Je ne sais pas si ça va être énorme.
C'est drôle. C'est drôle.
C'est Teddy qui est avec nous. Bonjour Teddy.
Bonjour.
Et Koum vous écoute et est prêt à vous conseiller de son grand âge et de sa grande expérience.
Merci Brigitte. Bonjour Koum, bonjour Brigitte.
Allez-y.
Alors j'ai ma question la suivante, c'est que donc moi j'ai je suis un peu plus vieux que vous, comme hein, j'ai une trentaine d'années.
Ouais.
J'ai eu effectivement des expériences avec des personnes de mon âge.
Ouais.
Et j'ai eu l'occasion d'avoir des expériences avec des personnes beaucoup plus âgées, notamment 50 ans. Et j'ai été très attiré. Et aujourd'hui je le suis encore plus. Maintenant ma question c'était savoir est-ce que je peux me permettre de continuer à aller voir des personnes plus âgées ou continuer avec des personnes de mon âge? Parce qu'il y a quand même cette partie à savoir, il y a l'histoire des enfants, savoir à un certain âge on peut avoir d'enfants, est-ce que je vais pouvoir en avoir encore avec cette personne-là? Et aussi, il y a les regards extérieurs, quoi. Même si on dit qu'on vit une autre sexualité pour nous, on a toujours ce regard de voir les autres et d'avoir leur jugement. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus.
Simplement, je dirais que oui, il faudrait que tu continues. Si c'est ton truc, écoute carrément. Je vois pas pourquoi aller chercher plus loin. Je pense que si tu résistes à ce truc-là, de toute manière, tu vas y revenir. Moi, je vois les choses un peu comme ça. Je pense pas qu'il faut se bloquer sur quoi que ce soit et malgré le regard des autres. Après, c'est soit on s'assume pleinement, soit après on reste dans un espèce de complexe qui est un peu qui peut être bien plus que gênant au final. Je pense. Donc non, moi ça me choque pas du tout.
Avec une vieille de 50 ans, il pourra pas avoir d'enfant.
C'est clair.
Oui, c'est la question aussi.
Après ça dépend de toi. Si tu veux avoir des gosses, c'est problématique, c'est sûr. Après non, je sais pas. C'est purement sexuel. Je sais pas comment. Après, ça t'empêche pas d'avoir des enfants, de t'éclater un petit peu. Et après, je sais pas, ou simplement de trouver la femme qui a peut-être la maturité aussi intérieure. Je sais pas. C'est simplement physique ou c'est par le fait que ça soit une femme mûre.
Alors il y a eu du physique à une époque. Et puis là, il y a une certaine personne avec qui c'est plus que physique et il y a des sentiments qui sont rentrés en ligne de compte, donc forcément ça passe. C'est pour ça qu'il y a la question des enfants et de une possibilité de vivre à deux et de savoir effectivement si si plus tard je vais pas être bloqué à me dire bah finalement j'aurais peut-être pas dû faire ce choix ou voilà j'ai peur d'avoir des remords ou même des regrets plus tard alors qu'aujourd'hui
les remords et les regrets déjà c'est pas la même chose donc
non mais plutôt des regrets des regrets parce qu'effectivement aujourd'hui tout est beau tout est rose mais qu'est-ce qui me dit que dans 5-6 ans je vais pas forcément avoir après c'est ce qui se passe aujourd'hui
c'est un peu toujours comme ça quoi c'est
voilà. C'est peut-être la société qui veut ça parce que beaucoup de personnes se séparent aujourd'hui et font de plusieurs histoires dans leur vie. Mais voilà, c'est pas ce que je veux et c'est pour ça que je préfère me poser des bonnes questions et que je me permets de questionner aujourd'hui au niveau de vous questionner, questionner Brigitte aussi par rapport à.
Ah bon, moi je ne suis plus là.
Je sais que vous écoutez juste à côté, mais bien entendu c'est un com que je pose la question. Après il est un peu plus jeune, mais je pense qu'il peut quand même avoir un avis parce que par rapport à vous, sachant que vous êtes jeune. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous arriver?
Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais moi c'était pas par choix en fait. Mais pareil, j'ai eu une relation avec une femme vachement plus âgée que moi, de plus de 15 ans. Et c'est juste que j'étais encore plus jeune que maintenant, tu vois, j'avais 18 ans donc si tu veux je sais pas. Au départ ça a toujours été super cool. Après moi c'est juste
c'était peut-être une histoire comme ça quoi, c'était peut-être pas une grande histoire d'amour. Vous envisagiez pas de vivre vraiment avec elle je sais pas.
Non mais c'était déjà trop bizarre à la base, c'est-à-dire que même c'était pas possible quoi, c'était spécial. C'est un truc que j'ai vécu comme ça qui arrivait un peu sur le tas, mais c'est clair que non, moi je pensais pas forcément avoir des enfants à 18 ans, c'est un peu étrange, mais non pas du tout. Donc
mais quand on rencontre quelqu'un et qu'on sait que de toute façon c'est pas une histoire qui va durer, c'est pas la même chose.
C'est vrai.
Là Teddy, la question qui se pose à juste titre, c'est est-ce que avec cette femme elle a quel âge, Teddy?
Alors là, elle a 45 ans exactement.
45 ans, oui donc.
Mais t'es dit, t'as quel âge toi?
J'en ai 34.
Et il y a toujours que 11 ans d'écart.
Ouais, ça va.
Mais la question des enfants, oui, à 45 ans, elle a plus beaucoup de temps pour être enceinte, si ce n'est déjà trop tard.
Ah, c'est clair.
Surtout qu'elle a déjà 3 enfants, dont un qui a 18 ans, donc je pense pas qu'elle en veut d'autres, quoi. Donc.
Bien sûr, bien sûr.
Et ah ouais. Oh là là, les galères de grand. Ok.
Mais c'est sûr qu'à 21 ans, on se pose pas ces questions-là. J'imagine vous posez pas la question des enfants.
Si, moi c'est en tout cas c'est pas. Je veux dire, ça sera pas pour tout de suite. Mais voilà. J'ai envie d'avoir des enfants. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur. J'adore les enfants. Mais du coup, je vois sa question. Mais c'est clair que déjà, je trouve que l'écart d'âge est pas forcément très grand. C'est clair qu'elle pourra peut-être pas en avoir encore dans très longtemps. Le fait qu'elle en ait plusieurs, après, ça peut être autre chose. C'est clair que ça peut être compliqué à gérer. Mais honnêtement, je sais pas si je suis vraiment la meilleure personne pour te conseiller, parce que là, pour le coup, c'est très complexe.
Qu'est-ce que vous feriez à la place de Teddy?
Qu'est-ce que je ferais à sa place? Moi, je serais incapable de ne pas avoir d'enfant. Donc, non, ça déjà, ça me mettrait un gros frein.
Oui, parce que c'est quand même une valeur essentielle.
C'est une valeur essentielle, c'est clair. Et après, compliqué le problème.
Parce que autant le regard des autres, c'est vrai qu'on va pas, on n'est plus à une époque où on se pose la question de la morale de manière aussi forte qu'avant. On peut vivre avec quelqu'un de, on peut vivre avec une cougar, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, sans problème. Mais la vraie question, c'est en effet la question des enfants, Teddy. Si c'est essentiel pour vous, je crois qu'il faut, pas trop vous engager avec cette femme. Ce serait le conseil qu'on peut. Moi, je crois, c'est un petit peu aussi l'expérience là qui parle, Côme. C'est vrai que les valeurs qui sont essentielles pour nous doivent être partagées si on veut vraiment s'engager dans une vie commune sur le long terme, évidemment. Pas pour une aventure, ça c'est pas grave, non?
Non, c'est clair. Je suis totalement d'accord avec vous, quoi. Donc,
et vous connaissez aujourd'hui vos valeurs essentielles?
Ça se fait, j'ai pas forcément de valeur.
Donc déjà, le vouloir des enfants, donc fonder une famille,
c'est sûr. Après,
est-ce que la fidélité, par exemple, c'est devenu une valeur essentielle?
Ouais, c'est important. C'est quand même super important. Je suis pas les trucs libertins, tout ça, ça peut être très bien pour certaines personnes. Je sais que moi, ça me sera parfait.
Mais ça encore, aller en club libertin, c'est pas être infidèle, puisqu'on y va ensemble.
Non, c'est clair, on y va ensemble. Je sais pas. Non, simplement, fidèle, avoir des enfants. choses essentielles, je ne sais pas.
Donc vous êtes finalement assez cohérent avec l'image qu'on a, on a de vous. On a l'image d'une jeune, du jeune homme romantique qui va d'ailleurs très très bien interpréter évidemment Julien Sorel. Et puis vous êtes en train de nous dire oui, si quand même la fidélité c'est important. Vous êtes romantique?
Ouais, je peux l'être. Après, je suis pas très très cucu tout ça. Enfin, je veux dire très.
C'est quoi être cucu?
Être cucu, c'est quoi? Bah, c'est je sais pas, les trucs un peu bidons, quoi. Très coin-coin. Enfin, canard, tout ça, pas trop. Mais.
Est-ce que c'est quoi finalement pour vous le romantisme?
Ne pas prévoir les choses. Essayer de rendre les moments un petit peu plus magiques qu'ils. Enfin, essayer de le rendre plus magiques qu'ils ne le sont.
Jolie définition. Ouais.
Et voilà. Essayer d'améliorer le quotidien avec sa copine, essayer de faire de belles surprises.
Vous avez déjà dit je t'aime?
Ouais.
Plusieurs fois?
Ouais.
Et on vous l'a déjà dit, évidemment.
Ouais.
C'est mieux de le dire ou de l'entendre?
C'est très bien les deux, je pense. C'est important que ça vienne des deux côtés.
C'est mieux, oui.
Ouais, c'est mieux.
Comme reste avec nous et on se retrouve dans un instant. Si vous avez envie de lui poser une question, vous pouvez bien sûr nous appeler au 3216. À tout de suite.
RMC sur votre iPhone, c'est possible. Téléchargez tout de suite l'appli RMC.
Et un petit tour du côté d'RMC.fr avec ce mail qui nous arrive de Virginie et qui nous dit « Bonjour, je voulais savoir si depuis The Voice, Com avait beaucoup plus de succès auprès des filles. Est-ce que ça change le... Oui, j'imagine, oui.
Je sais pas. C'est pas du tout quelque chose dont j'ai profité en fait parce que
La question de Virginie. Hein.
Non, je sais, mais est-ce que ça va mieux avec les filles? Je sais pas, j'y fais pas trop attention. Ça a toujours été plutôt cool pour moi. Donc
vous
après...
êtes plutôt, oui, vous êtes plutôt mignon de toute façon.
Bah, donc, je sais pas, c'est pas à moi d'en juger, mais.
Enfin, vous le savez quand même, vous avez des miroirs chez vous.
Oui, c'est ça.
Donc vous êtes déjà regardé dans un miroir, donc vous savez que vous êtes plutôt mignon. Vous vous plaisez aujourd'hui ou pas?
Ouais, ça va. Moi, je me sens bien dans mon corps, bien dans mon. Voilà. Très bien.
Bon, mais est-ce que depuis The Voice, puisque c'est la question de Virginie, on va essayer d'y répondre, vous avez l'impression que les filles vous regardent encore plus?
C'est l'exposition de toute manière, c'est clair. Mais c'est pas unique aux filles, quoi. C'est ça. Je sais pas. C'est que les filles me regardent plus, oui, clairement. Mais parce qu'elles voient pas seulement le mec qui est mignon dans le fond de la salle ou truc comme ça. Donc elles se disent ok. Sauf que le mec est passé à la télé, tout ça, c'est toujours des choses qui attirent, pas souvent les bonnes personnes.
Mais oui, et vous sentez la différence entre celles qui sont attirées par ce que vous êtes et celles qui sont attirées par le personnage?
Ouais, mais en même temps, peu de fois où je sors, où j'ai rapport à ce genre de personnes, elles viennent pas forcément à moi, je sais les esquiver. Moi, souvent, les rencontres que j'aime bien, c'est les rencontres qui se font un peu sur le tas, comme ça, les trucs qui est un peu, je sais pas, qui sont pas prévus encore une fois, et quand il y a une nana qui flirte un peu toute la soirée, machin, t'as fait The Voice et tout, avec son air un peu con, avec son sourire et tout. Je suis méchant, hein. Non, je suis méchant, mais c'est pas ça, c'est
non,
juste
non,
que souvent,
vous êtes réaliste,
c'est un peu,
c'est bien.
Voilà, c'est juste que c'est pas les choses qui me font triper, quoi.
On imagine.
RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye et Com.
Com est avec nous. Vous êtes donc le finaliste de The Voice. Est-ce que vous en avez pas marre aussi qu'on vous parle de The Voice sans arrêt?
Non, j'en ai pas marre parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut assumer. Après, c'est. The Voice, c'est quelque chose qui est très intense, très court en même temps. Voilà, c'est un énorme tremplin pour nous, c'est clair. Non, j'en ai pas marre parce que je peux pas trop cracher dans la soupe. C'est aussi grâce à eux que je suis là aujourd'hui et que ces gens me soutiennent.
Et c'est grâce à ça, évidemment, que vous serez donc dans ce spectacle opéra rock, Le Rouge et le Noir, donc à partir du 29 septembre. Évidemment, vous aurez l'occasion d'en reparler encore et encore. Je suppose que ça sera certainement une actualité très chargée pour vous dès le mois de septembre.
Fait, ouais.
Mais pour l'instant, vous préparez votre premier album.
En fait, je fais un peu les deux. Ça fait longtemps que j'écris. J'ai beaucoup joué en groupe, beaucoup. Je joue de plusieurs instruments. J'ai toujours fait que composer en fait à la base avant d'arriver dans The Voice. J'ai beaucoup joué aussi avec mes groupes et j'ai vraiment besoin de retourner sur scène avec mes compos et voilà, et montrer aussi ce que j'ai à l'intérieur de moi, parce que à mon sens, j'ai pas pu montrer réellement qui j'étais vraiment, même pendant The Voice. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était une petite vitrine aussi sur certains. C'est particulier, 2 minutes 20 pour juste montrer aux gens, enfin je sais pas, sortir des titres comme ça qui sont pas forcément les nôtres.
C'est quoi votre inspiration, votre musique, c'est plutôt qui, quoi?
Alors qui, je sais pas, un mélange de rock électronique, enfin rock électro quoi, vraiment entre avec des riffs un peu plus Nirvana, d'un univers un peu plus Marilyn Manson aussi, et plus énervé déjà que tout ce que j'ai pu faire avant.
Oui, donc c'est un petit peu éloigné de l'image qu'on a de vous finalement.
C'est moins après voilà, français anglais. Je saurais pas, à chaque fois c'est très compliqué, il faudra
qu'on écoute, c'est bien, voilà, on écoutera avec plaisir comme. Voilà. Et là on va en savoir un petit peu plus sur votre vie intime. Les questions indiscrètes, c'est tout de suite.
Très bien.
Vous avez. Okay. Vous êtes libre.
Ouais, bah, pas de souci. Hein? Aucun problème.
J'imagine. Vous êtes plutôt du genre dominé ou dominant dans votre sexualité?
Plutôt dominant. Après, ça dépend de la personne. Ça dépend.
Bah, si ça dépend, c'est pas. Par exemple, vous préférez être.
Je préfère
au-dessus
pas, en fait,
ou en dessous.
Bah ça dépend de la personne en fait, simplement ça dépend de ce qu'elle a à donner et ça
donc
dépend
si
de la situation
aussi.
Vous
pouvez aimer les femmes dominantes et
carrément.
Oui.
Ouais.
Jusqu'à ce qu'elles soient un peu dominatrices.
Ah ben carrément, après que ça dépend. Je suis beaucoup plus dominant que dominé, mais après voilà, ça dépend aussi de la femme qu'on a en face de nous. Moi j'adore me faire dominer.
D'accord.
C'est clair, c'est cool quand même.
Vous adaptez.
Il y a pire. Je m'adapte.
Vous adaptez, mais est-ce que a priori vous êtes plutôt attiré? Parce que on peut comprendre qu'une femme dominante soit attirée par vous, mais est-ce que vous êtes attiré, ou est-ce que c'est parce que il y a une femme qui vient vous voir et que vous vous laissez
Bah en général c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est souvent un peu des deux quoi. J'arrive pas à me mettre seulement d'un seul côté. Je sais pas.
Donc vous croisez une femme, les regards se croisent et vous sentez si ça tilte, comme on dit.
Je sais pas si ça se fait en un regard, mais après ouais, je sais pas, ça dépend de la manière dont ça part, quoi. Je sais pas, tout est différent tout le temps, donc ça dépend juste de, je sais pas, de la personne que j'ai en face de moi, de ce qu'elle envoie comme message, après avoir comment on traduit le truc, voilà, c'est tout.
Vous avez, j'imagine, bien sûr, le souvenir de votre première fois, c'était plutôt réussi ou un échec?
Non, c'était pas mal.
Pas mal.
Ouais, c'était pas mal, c'était cool.
Félicitations, parce que la première fois pour un homme, c'est rarement pas mal. Hein.
Non, mais c'était le contexte aussi, donc ça va, c'était cool.
C'était cool, c'était une bonne maîtresse.
Non, on était tous les deux très jeunes,
ouais.
Donc on a un peu appris tous les deux, mais c'était juste, je sais pas, c'était mignon,
c'était
quoi.
Cool.
C'était cool. Et,
ouais, donc c'était plutôt bien.
Ouais.
Bah c'est bravo. Vous avez plutôt envie d'être aimé ou d'aimer? S'il fallait choisir une relation, où il y en a qu'un des deux qui aime, vous choisissez plutôt d'aimer ou d'être aimé?
D'être aimé.
D'être aimé.
Ouais. Ouais.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que si je devais choisir simplement un des deux, je pourrais pas vivre avec une personne qui ne m'aime pas.
Non, ça j'ai bien compris. Et vous avez raison, bien sûr. La réciprocité pour qu'une histoire dure est indispensable.
Et puis voilà, si en face ça aime pas et puis que je suis juste, j'ai pas envie d'être le petit.
Vous avez pas envie de souffrir en fait, peut-être. Parce que quand on aime et qu'on n'est pas aimé, on souffre.
Bah si. Bah, de toute manière, je pense qu'il faut trouver la personne qui vaudra le coup de vous faire souffrir. Je pense que toute personne, que ça vienne de n'importe quoi, les amis, tout ça, tout le monde finit par nous faire du mal à un moment ou à un autre. Après, faut juste trouver la personne les personnes qui en valent la peine. Parce que ne pas souffrir, ça n'existe pas, sans sentiment. Enfin, ça, j'y crois pas du tout, quoi.
L'amour, ça fait souffrir.
Ah, bah oui, évidemment. Mais l'amour, ça fait aussi beaucoup de choses bien plus belles que seulement souffrir.
C'est une source d'inspiration sans fin, l'amour.
Ouais, surtout quand ça fait mal. Surtout en général.
Vous avez déjà beaucoup souffert?
Ouais.
Et fait souffrir, j'ai entendu ça tout à l'heure. Hein.
Aussi. Ouais. Donc voilà. Mais
bah peut-être parce que
mais
ça prend
un peu, je pense, ça dépend. Après, ça dépend les histoires.
Ça dépend de la place qu'on donne à l'amour dans sa vie.
Voilà, c'est ça.
Si on lui laisse beaucoup de place, forcément, on va
ouais, c'est très important pour moi. J'en ai vraiment besoin. Ouais, bah je sais pas, ma relation avec les femmes, c'est super important, et quand j'aime une personne, j'ai besoin de l'aimer pleinement. J'ai besoin de choses fortes, en fait. Voilà, de trucs vraiment passionnés. Et en même temps, pas le côté passionné déchirure toutes les 15 minutes, quoi. Ça me casse les couilles. J'aime pas les meufs qui disent avoir du caractère pour avoir du caractère.
Les choses, c'est pas pour vous.
Ah non, pas du tout. Les princesses, tout ça, je dégage. J'aime pas ça du tout.
D'accord.
J'aime bien une meuf que je peux emmener dans la boue et qui peut être en même temps super classe et super cool. Besoin d'une, je sais pas, d'une femme, pas d'une grande gueule, quoi.
D'accord. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là.
Non, elle n'est pas là.
Bon, eh ben je vous souhaite de la rencontrer peut-être rapidement.
Ou peut-être. Je ne sais pas.
Ou peut-être.
Bon. Que je... voilà.
Eh ben écoutez, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Merci en tout cas, Koum, d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes dans cette comédie musicale Le Rouge et le Noir au Palace dès le 29 septembre, bien sûr. Et que, évidemment, vous êtes déjà en pleine répétition.
C'est ça.
Merci beaucoup, Koum. Lundi, on se retrouve avec Bruno Martin et Camille Emmanuel. En attendant, tout de suite, c'est Vincent Moscato. Je vous embrasse et bon week-end à tous.
Sur RMC, ne ratez rien de l'AL Amourez-vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.